d'accueillir le frère Wormbram et accueillons-le d'un accueil chaleureux des gens de la ville du Québec. Pasteur Richard Wormbram.
Chers frères, chères sœurs et très très chers enfants, je dis toujours aux frères et aux sœurs qu'ils sont chers. Aux enfants, je dis qu'ils sont très chers. Parce que pendant mes 14 années dans les prisons communistes, je n'ai jamais vu un enfant. Et pour moi, c'est une joie à part de voir des enfants. D'abord, ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui a été 14 années dans les prisons communistes. D'après les standards communistes, ce n'est pas beaucoup. En Chine rouge, notre frère Cheng Huchang a été en prison pour sa foi 41 ans. Ne croyez pas que ceci est trop, parce que dans la Russie soviétique, même sous Gorbatchev, nous avons un frère, son nom est Vassili Chipilov. Il est encore en prison depuis 49 ans. Il a encore une année et il aura sa noce d'or avec la prison. Alors moi, j'ai été heureux. J'ai été en prison seulement 14 ans. Et vous me comprendrez que je dois vous parler étant assis. Pendant ces années, nous n'avons pas marché, très peu. Il y a eu des temps que nous avions des chaînes très lourdes aux pieds, jusqu'à 20 kilos. Ils avaient l'habitude de frapper avec des bâtons de caoutchouc sur la plante des pieds. Et maintenant, il m'est difficile de rester debout longtemps. Il m'est difficile même de porter des souliers. C'est pourquoi vous avez un pasteur déchaussé devant vous ce soir. Avant de vous parler, je voudrais vous présenter une autre ancienne prisonnière, et une qui est très belle, c'est ma femme, Sabine. Elle a été en prison en même temps comme moi j'ai été en prison, mais dans une autre prison. Moi, je ne l'ai pas vue pendant 14 ans. Et maintenant, nous avons eu de la part de Dieu un très grand don. Nous sommes mariés depuis 100 ans. Moi 50, elle 50, ça fait 100. Nous sommes mariés le même jour. Et nous avons eu maintenant en liberté notre noce d'or. Et maintenant, je viens à mon message. Je vous parlerai d'un texte biblique sur lequel je suis sûr que vous n'avez jamais encore entendu un sermon. C'est en Matthieu, chapitre 1, le verset 17. Matthieu 1, verset 17. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au cri. Amen. Moi, je suis juif. Ma femme est aussi juive. Nous sommes venus comme des hommes matures à la foi dans le Christ. Mais les juifs ont une mentalité à part. Dans la langue hébraïque, dans la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit et le Nouveau Testament a été pensé, parce que toute la Bible a été écrite par les Juifs, dans la langue hébraïque, le mot « penser » n'existe pas. On ne peut pas dire, même dans l'hébreu moderne, qu'on parle maintenant en Israël, on n'a pas le verbe « penser », il n'y a pas le substantif, la pensée, « penser ». Qu'est-ce que c'est la pensée ? Si après midi, tu te couches un peu sur un sofa et laisses les pensées te venir, tu vois combien de bêtises te viennent. Les pensées, qu'est-ce que c'est une pensée? Les Hébreux n'ont pas le mot pensée. Au lieu de penser, ils ont l'irchof, et l'irchof veut dire calculer. Exactitude mathématique. Abraham, a cru Dieu, et celui, ce saint lui a été compté, comptabilité, lui a été compté comme justice. Les Juifs pensent très précisément, c'est pourquoi ils sont de si bons commerçants. Ils savent calculer tous les pas de leur vie. Et nous, quand nous avons entendu que Jésus est le Sauveur, et que le Nouveau Testament est la parole de Dieu, j'ai dit, je dois contrôler, je ne peux pas penser simplement, je ne peux pas accepter parce que quelqu'un m'a dit. J'ai lu la première page de Matthieu, dans laquelle il y a la généalogie de Jésus, tous les ancêtres, en commençant par Abraham jusqu'à Marie. Et dans le verset que j'ai cité, l'évangéliste Matthieu dit, qu'en tout, c'était 42 générations, 3 fois 14. Un groupe d'Abraham jusqu'à David, un autre groupe de David jusqu'à la captivité babylonienne, un troisième groupe de la captivité babylonienne jusqu'au cri, 42. J'ai dit, je contrôlerai. Et j'ai compté. Je vous invite, quand vous allez à la maison, comptez aussi, vous verrez que ce ne sont pas 42. Ce sont 41. Mais maintenant, Matthieu était un publicain, ça veut dire un directeur de douane. C'était un homme qui avait affaire de l'argent, avec de l'argent tout le temps. Il savait compter jusqu'à 42. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a 42 générations quand il y a seulement 41? Et le fait que c'est seulement 41 est voilé parce que le nom d'un ancêtre, j'ai connu, est énuméré deux fois. Alors si tu comptes seulement comme ça, tu arrives à 42. Mais si tu analyses, tu vois qu'un nom est répété. Ce ne sont pas 42, ce sont 41. Pourquoi est-ce que ça? Alors une inexactitude sur la première page du Nouveau Testament. Je me suis étonné. Puis je suis arrivé à Matthieu 12. En Matthieu 12, il y a quelque chose de très intéressant. Comme Jésus s'adressait à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Avez-vous jamais pensé du fait que vous pouvez être une mère à Jésus? C'est tellement étrange. Nous tous, nous savons que nous sommes ses petits frères, ou ses petites sœurs. D'habitude, on ne dit pas que nous sommes les mères de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut être une mère à Jésus? Est-ce que peut-être un ancêtre de Jésus n'est pas énuméré là-bas, une mère qui manque là-bas? Il y a tant de femmes dans la généalogie de Jésus, Tamar et Ruth et Bathsheba et puis Marie. Peut-être qu'il doit y avoir encore une mère là-bas qui n'est pas énumérée. C'est de ça que je veux vous parler maintenant. L'amour le plus haut entre les hommes, c'est l'amour maternel. On aime son époux, mais l'époux aussi apporte tout dans la maison, il supporte la maison. On aime sa femme, mais la femme te soigne, elle a soin de toi. On aime ses enfants, ils te font tant de joie. On aime le père, il te donne aussi des bonbons, du chocolat, il te donne quelquefois quelques sous. La mère est la seule qui aime complètement d'une façon désintéressée. Nous étions en prison avec un qui avait tué son père et sa mère avec une hache, en leur cassant la tête avec une hache. Lui, le père, est mort tout de suite. Elle n'était pas morte encore. Et il a traîné par les pieds les deux victimes pour les jeter dans une cave. Et quand il a ouvert la porte de la cave, la porte s'est fermée et lui a brisé un doigt. Il a crié « Ah !» Et la mère à laquelle il avait cassé la tête avec la hache, mais qui n'était pas morte encore, l'a demandé « Mon chéri, est-ce que ta souffrance est grande ? C'est ça une mère ?» L'amour de la mère est l'amour la plus haute. Les Juifs ont une légende qu'alors que Dieu a créé ce monde, un moment donné, il s'est blessé à un doigt et des gouttes de sang sont tombées sur la terre et les anges se sont demandés, mais qu'est-ce qu'on fera avec ce bout de sol qui est sanctifié ? Des gouttes du sang de Dieu sont dans ce sol. Et un ange a répondu, il faut en faire un cœur de mère, parce que le cœur de mère est ce qu'il y a de plus sensitif, de plus amoureux. Est-ce qu'on peut être une mère à Jésus? Lui, il a dit, celui qui fait la volonté de mon Père a deux choix. Il peut être ou bien mon frère ou ma sœur, d'après le sexe, ou bien quelque chose d'autre. Il peut être ma mère. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous êtes proposé d'être une mère à Jésus? D'être comme Marie a été pour Jésus. Elle le servait, elle avait soin de lui quand il était petit, elle a été aussi fidèle au pied de la croix, elle ne lui demandait pas des choses, elle était tranquille, elle était silente, elle avait un seul désir, de le servir jusqu'au bout, de l'aider tant qu'il était petit, d'être fidèle à lui. Et on peut être un tel disciple de Jésus, un disciple qu'on pourrait considérer comme semblable à une vraie mère de Jésus. Je vous dirai de deux telles mères de Jésus que j'ai rencontrées moi-même, ou bien dont j'ai écouté. À un moment donné, quand j'étais en prison, je suis tombé très très malade. J'avais la tuberculose de la surface, de l'entière surface de deux poumons. J'avais la tuberculose de l'échine spinale, j'avais des tuberculoses des intestins, j'avais le diabète, j'avais je ne sais pas quoi avec le cœur, j'avais beaucoup de maladies. J'étais tellement malade que si j'avais une coupe de eau près de moi, je n'avais pas la force d'étendre ma main pour prendre cette coupe d'eau. J'étais près de la mort dans une chambre de la prison qui était réservée pour ceux pour lesquels on avait abandonné l'espérance, ceux-ci mourront. J'ai été le seul qui est sorti vivant de cette cellule. Et maintenant, j'étais dans cette cellule, immobilisé par la peine et par la maladie. À ma droite, il y avait un pasteur, son nom était Iscou. Il était jeune encore, comme il y a ici des jeunes pasteurs. On l'avait tellement battu, on l'avait tellement torturé. Les communistes torturent les chrétiens. Et je ne vais pas vous dire quelles sont les tortures. Vous ne dormirez pas la nuit si vous sauriez quelles sont les tortures. Et ce que les frères ont souffert en torture en prison, c'est à peu près rien en comparaison avec ce que les sœurs ont souffert. Il suffit de dire que les jeunes sœurs qui ont été seulement violées par la police communiste ont été très heureuses. Il y a encore de pire que le viol. Et maintenant, lui, ce pasteur, il a été beaucoup frappé, beaucoup torturé, il était près de la mort, mais il était tellement serein, il était tellement tranquille, sa face brillait, il était comme à des noces. Je regrette que je ne suis pas un peintre et je ne sais pas peindre les belles faces de nos frères dans la prison. La gloire de Dieu briller sur leur face. Et c'était difficile, même pour la gloire de Dieu, de briller sur une face de prisonnier, parce que nous ne nous lavions pas. Moi, je ne me suis pas lavé 3 ans. Et la gloire de Dieu devait passer par une croûte de crasse. Il avait des faces qui avaient la splendeur du soleil. Il brillait, sa face brillait. Il avait un superbe sourire sur sa face. Et il ne pouvait pas parler beaucoup, Mais il parlait du ciel, il parlait du pardon de Dieu, il parlait de ses espérances, il parlait du Christ. Lui, il était à ma droite. Vous vous étonnerez si je vous dirai qui était à ma gauche. À ma gauche était le communiste qui avait torturé à mort le pasteur de près de moi. Parce que les communistes ne mettent pas en prison seulement les chrétiens ou les juifs, mais j'étais juif et chrétien. Je recevais toujours deux portions de coups, une pour être juif, l'autre pour être chrétien. Mais eux, ils haïssent non seulement les juifs et les chrétiens ou les patriotes, ils haïssent simplement. Un communiste haït l'autre communiste. Et quand ils se querellent entre eux, un chef communiste met l'autre chef communiste en prison et le torture comme s'il était chrétien. Ainsi, il s'est passé que la victime était dans la même cellule avec le tortionnaire. Le tortionnaire aussi avait été battu, aussi avait été torturé, et il était maintenant près de la mort. Il ne pouvait pas mourir. Pendant la nuit, il me réveillait. « s'il vous plaît, monsieur le pasteur, dites une prière pour moi, je ne peux pas mourir, j'ai commis des crimes tellement atroces. » Alors j'ai vu une scène qui est peut-être la scène la plus belle que j'ai vu dans toute ma vie de 79 ans. Ça vaut la peine d'être 14 années en prison pour voir cette beauté que j'ai vue. Il y a quelques jours, ils sont ascendus sur le sommet du Himalaya. En quelle peine, en quelle difficulté, mais de là-bas, on voit la nature tout à fait autrement comme nous la voyons d'ici-bas. Il vaut bien la peine de souffrir, et pas seulement dans les prisons communistes, mais aussi souffrir dans les maisons de Canada. Ici aussi, il y a de la souffrance. Si vous regardez bien, vous verrez la gloire de Dieu en cette souffrance. Quand le criminel se plaignait, je ne peux pas mourir parce que j'ai commis des crimes si horribles, moi j'ai vu le pasteur appelant deux autres prisonniers et s'appuyant sur eux, lentement, lentement, il est passé près de mon lit. Il s'est assis sur le lit de son meurtrier. Il était près de la mort et c'est celui-ci qui l'a tué. Il s'est assis sur le lit de son meurtrier et l'a caressé sur la tête. J'espère que jamais je n'oublierai ça. Quand est-ce qu'as-tu caressé la dernière fois ta mère? Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Quand est-ce que l'as-tu caressé? Quand est-ce qu'as-tu caressé la dernière fois ta grand-mère? Nous sommes avares en caresse. Peut-être vous corrigez ça, que ce soir, vous caressez votre mère ou votre grand-mère, appelez-la au téléphone et lui dites que vous l'aimez. Je l'ai vu, un homme près de la mort, à cause des tortures, caressant son tortionnaire. Il lui a parlé avec une voix si douce. Il lui a dit, « Moi, je t'aime de tout mon cœur, et je te pardonne, et je peux t'assurer que tous les chrétiens que tu as torturés, s'ils étaient chrétiens, ils t'ont pardonné, et ils t'aiment. Mais nous sommes seulement des hommes. » Et si nous, des hommes, pouvons pardonner et aimer, autant plus le Christ, qui est l'amour personnifié, qui est Fils de Dieu, il veut t'avoir dans son ciel beaucoup plus que tu veux être dans le ciel avec lui. Il veut te sauver beaucoup plus que toi tu veux être sauvé. Il veut te pardonner beaucoup plus que toi tu veux être pardonné. Il court après toi, il t'aime. Seulement, retourne, repentis-toi de ton péché, et crois en lui. J'ai entendu dans cette cellule où il n'y avait rien de privé, j'ai entendu comment le meurtrier, avec beaucoup de larmes, a confessé tout ce qu'il a fait du mal à sa victime et a demandé pardon de Dieu. Ils ont prié ensemble. Ils se sont embrassés. Puis, lentement, lentement, le pasteur est retourné à son lit. Tous les deux sont morts le même soir. C'était un soir de Noël. Mais pas un Noël dans lequel on célébrait qu'il y a 2000 ans à Bethléem, la Vierge Marie a donné naissance au Christ. Maintenant, il y avait le pasteur Iscou, un homme qui avait entendu l'appel de Jésus. Si tu es mon disciple, tu peux être un petit frère de moi, une petite sœur. Mais il peut se faire même que tu deviens une mère à moi. Et comme ma mère a donné naissance à un Christ, toi tu as donné naissance au Christ dans l'âme d'un criminel. Maintenant, il avait le cri dans son cœur, le meurtrier. Alors, le même petit enfant qui s'est né il y a 2000 ans à Bethléem, c'est le même Christ qui vit dans le cœur des croyants. Et comment le Christ s'est-il né dans le cœur de ce criminel? Il a rencontré un chrétien qui avait eu l'ambition, on peut être un petit frère, on peut être une petite sœur de Jésus, mais Jésus a dit aussi qu'il y a une autre possibilité, de devenir comme une mère à lui, c'est-à-dire de faire aussi de petit Christ se naître dans des âmes, et même dans l'âme de quelqu'un qui t'a fait le plus grand tort, qui t'a pris la vie, même ça, on peut le faire. Et maintenant, ça c'est une scène que j'ai vue moi-même, et j'espère jamais ne l'oublier. Et ce que je vous dis maintenant de la généalogie dans laquelle un ancêtre manque, il est besoin de nouvelles maris, il est besoin de disciples qui ont l'ambition. Je peux être quelque chose de plus qu'un petit frère ou une petite sœur de Jésus. Comme Marie a donné naissance à Jésus, Jésus veut prendre naissance dans les âmes des pécheurs, et moi je peux y aider par mon témoignage, par mon amour, par ma bonté, par imitant Jésus dans ma vie. Cet homme, je l'ai connu moi-même. Maintenant, je vous dirai une scène de l'Union soviétique. Je travaille maintenant dans une mission qui s'appelle Jésus au monde communiste, en anglais Jesus to the Communist World. Une mission qui travaille clandestinement dans la Russie et dans les autres pays communistes. Nous introduisons des Bibles et des autres livres chrétiens. Nous aidons les familles des chrétiens qui sont en prison. Et nous sommes en contact avec cette église souterraine, cette église persécutée. Maintenant, un épisode là-bas. Il y avait une assemblée d'une église clandestine dans un village. L'assemblée était dans une étable. Les églises étaient fermées. Les assemblées chrétiennes étaient fermées. Alors les chrétiens, ils voulaient s'assembler. Et alors ils ont décidé de s'assembler dans une étable. Une étable est une très belle place pour fêter la naissance de Jésus. Parce que la première naissance a aussi été dans une étable. Et furtivement, séparément l'un de l'autre, ils se sont approchés de cette étable, regardant autour d'eux pour ne pas être poursuivis par la police. Et quand ils étaient tous là, ils ont donné un morceau de fer dans la main d'une chrétienne vieille, plutôt vieille, et lui ont dit, toi tu garderas devant la porte pour voir si la police communiste vient. Si tu vois qu'ils viennent, alors tu jettes ce morceau de fer vers la porte de l'étable, ça sera un signal d'alarme, et nous tous nous enfuirons. Chacun comme il peut. Et maintenant, les chrétiens étaient dans l'étable, et elle devait garder devant l'étable. C'était une femme à part. Elle avait eu un seul fils, et ce seul fils a été tué par les communistes. Ne vous étonnez pas, beaucoup de mères ont eu leur fils tué par les communistes. Aujourd'hui, dans l'Amérique, c'est la fête de maman, et il y a beaucoup de joie, on apporte des fleurs, on a des repas. Pas chez tous les chrétiens, cette fête est seulement une fête de joie. Il y a beaucoup de larmes, parce que dans la Russie, il y a eu une loi. Si tu enseignes tes propres enfants la foi chrétienne, on peut prendre tes enfants. Et la presse soviétique elle-même, j'ai écrit plusieurs livres à ce sujet, je crois que vous les trouverez sur la table qui est dehors, et j'apporte là-bas la documentation de la presse soviétique. Eux, ils disent, De la famille Malazemnov, nous avons pris 7 enfants. De la famille Mikroukov, 6 enfants. De la famille Sloboda, 4 enfants. De la famille Sitch, 1 enfant. Je connais les noms de la presse soviétique, eux, ils disent. Imaginez-vous la scène, tard la nuit, un auto de la police s'arrête devant votre maison, la police entre et arrache tes enfants de leur lit, de tes bras, et ils partent avec tes enfants, et jamais plus tu ne les verras. Ils sont mis dans des maisons d'éducation athéiste, communiste, où ils seront indoctrinés en haine envers Dieu. Et ta maison qui était pleine jusqu'alors avec la joie des enfants, ils chantaient, ils rigolaient, ils jouaient, quelquefois ils étaient doux et bons, quelquefois autrement désobédients, mais tu les aimais tant comme ils étaient, et ce n'est vraiment pas les parents qui savent aimer leurs enfants, ce sont les grands-parents, eux, ils savent aimer les enfants. Et maintenant, la maison est restée tranquille, il n'y a plus des enfants, il n'y a plus leur voix. C'est l'histoire dans beaucoup, beaucoup de maisons chrétiennes à l'Est. Et des autres sont morts dans les prisons. Ma mère est morte pendant que moi j'étais dans la prison. Elle ne m'a jamais revue. J'ai entendu dire que son dernier mot avant de mourir a été « mon cher Richard », mais elle ne l'a pas vu. Alors, cette femme qui gardait les tables qui étaient devenues église, elle avait eu un fils et le fils avait été tué par les communistes. Et quand elle a vu le cadavre de son fils, le cadavre lui avait été retourné, et quand elle a lavé le cadavre, elle a reconnu les marques de torture, elle a promis à Dieu, « Je suis vieille, je ne dois plus travailler pour mon pain quotidien, je dédie toute ma vie pour prier pour l'assassin de mon fils. » Et tout son temps libre, elle ne faisait qu'une chose, de prier pour cet assassin. Et maintenant, elle était devant l'étable, sur la neige, elle avait oublié pourquoi elle était là. Elle a commencé à prier, elle n'était plus ici, elle était dans le ciel, et prier pour l'assassin de son fils. Elle ne remarquait pas ce qui se passait autour d'elle, et subitement, quelqu'un lui donne un coup de poing dans le dos, elle tombe dans la neige. Quand elle se tourne, elle voit plier sur elle un officier de la police secrète. La police soupçonnait que les chrétiens doivent se rassembler quelque part, ils ne savaient pas où ils se rassemblent. Et l'officier communiste lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle le regarde tranquillement et lui dit « Je prie pour toi. » Pourquoi est-ce que tu pries pour moi? Je sais très bien que tu es chrétienne. Vous, les chrétiens, vous êtes contre le communisme. Tu ne pries pas pour moi. Pourquoi est-ce que tu pries pour moi? Et elle a répondu, mon fils a été tué par le communiste. Et notre Seigneur nous a enseigné de faire du bien pour ceux qui nous font du mal, d'aimer nos ennemis. Et quand j'ai vu le corps, le cadavre de mon fils, j'ai décidé d'aimer celui qui l'a tué. Je ne savais pas qui l'a tué. Mais j'ai décidé que j'aimerais le meurtrier de mon fils comme j'ai aimé mon fils. Il a pris dans mon cœur la place de mon fils. Et à ce moment, elle a eu une illumination. Elle a commencé à crier, « c'est toi, maintenant, je te reconnais. N'est-ce pas toi qui as tué mon fils ?» Dis-moi seulement, est-ce que sa dernière parole était « Maman, maman chérie, si tu savais combien je t'aime, depuis des années, je prie pour toi. Mon désir et ma prière t'a attiré en cette place. » Et maintenant, l'officier de la police, il pleurait. Il était un homme qui haïssait Dieu, mais seulement parce qu'il ne savait pas qui est ce Dieu. Il ne savait pas que Dieu est l'amour. Il ne savait pas qu'il y a cet amour surnaturel, que cet amour existe non pas seulement dans le cœur de Dieu, mais aussi dans le cœur des hommes qui appartiennent au Dieu, même dans le cœur d'une mère auquel on a tué le seul fils. Mais elle, même elle peut aimer comme ça. Quand elle a vu ses larmes, il lui a dit, maintenant, je peux te répondre à ta première question. Qu'est-ce que je fais ici? Viens avec moi. Elle est entrée avec elle dans l'étable. Les chrétiens, quand ils l'ont vu, un officier communiste en uniforme, ils se sont effrayés. Elle a dit, ne vous effrayez pas. Son uniforme est d'officier communiste. Son cœur est d'un pécheur qui a pleuré pour ses péchés. Recevez-le comme votre frère. Il y a des choses comme ça. Les fêtes de maman sont d'une façon, ici en Amérique, dans les États-Unis, au Canada, elles sont autrement dans des pays communistes où il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, mais de larmes jointes à une foi puissante, à un amour puissant. Les communistes ont pu briser les os des chrétiens. Ils n'ont pas pu briser leur foi, leur amour. Ça s'est resté. Et l'Église, sous le communisme, est triomphante. Elle croit en nombre. Elle croit aussi en sainteté. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a donné à cette Église. Je veux vous dire seulement, je sais que je déçois quelquefois ceux qui viennent m'écouter. Ceux qui viennent m'écouter disent, pauvre homme, il a été 14 années en prison, il nous dira une chose triste de combien qu'il a souffert lui, combien des autres souffrent, et il tonnera contre les communistes qui sont si méchants. Au lieu de dire de mauvaises paroles des communistes, il vaut mieux glorifier Dieu. Et au lieu de vous dire combien de fois on a été battu, il vaut mieux de parler de la victoire, de la foi et de l'amour, même dans ces circonstances. S'il y a une partie du monde où les communistes sont vraiment aimés, c'est dans les prisons communistes. Les chrétiens, torturés et détenus par eux, nous n'aimons pas le communisme, mais nous aimons les communistes. Je n'aime pas l'alcoolisme, mais j'aime les alcooliques. Je n'aime pas les drogues, mais j'aime les drogués. Et je veux les voir sauvés. Et c'est ainsi que nous répondons avec amour à tout ce que les communistes font. Je veux vous dire seulement un épisode encore. C'est tard, je ne peux pas vous tenir trop longtemps. Je veux vous dire seulement un épisode encore de cette église souterraine. À un moment donné, une jeune fille de cette église souterraine a été arrêtée. Nous devons être souterrains. Parce que ce n'est pas comme dans l'Amérique du Nord. Tu veux avoir une Bible, tu entres dans un magasin, tu achètes une Bible. Si tu veux avoir un livre chrétien, tu prends un livre chrétien, un livre de chansons et tout. On ne trouve pas ça dans aucune librairie à Moscou, je ne sais pas où. Alors il faut imprimer clandestinement. Pour ça, il faut avoir une typographie clandestine. Il faut se procurer clandestinement du papier. Il faut distribuer clandestinement. Il y a tout un réseau, une organisation. Les écoles pour les écoles chrétiennes pour les enfants, ça n'existe pas. Alors si tu veux avoir une école de dimanche, elle doit être clandestine. Alors ça aussi, il faut l'organiser. Il y a l'église clandestine. Et si on arrête quelqu'un d'importance dans cette église clandestine, on le torture pour le faire dire avec qui il a travaillé. Alors on peut emprisonner les autres aussi. Mais nos frères et nos sœurs résistent. Et on a arrêté une jeune fille. On l'a battue, on l'a torturée, elle a résisté, elle n'a pas dit les secrets avec qui elle travaille. Un soir, on la sort de sa cellule, et cette fois le capitaine de la police est très très poli. Il lui dit, n'ayez aucune peur, aujourd'hui vous ne serez pas battu, je ne vous toucherai même pas d'un doigt. Je vous ai appelé pour autre chose, je veux vous montrer des photographies intéressantes. Il lui a montré des photographies que moi aussi j'ai vues. Ils lui ont montré la photographie d'Aïda Skripnikova, une jeune fille de l'église souterraine baptiste de l'Union soviétique, d'une beauté comme un movie star, comme une artiste, d'une grande beauté, elle avait peut-être 18 ans. C'était ça la photographie au moment de l'arrestation. J'ai vu aussi la photographie le jour quand elle a été libérée de prison après 3 ans. Toute la beauté était partie, elle n'existait plus. Elle avait des rides, elle était comme une vieille femme. Ils lui ont montré le tableau de Nijol et Sadunaïté, de nouveau une très très belle jeune fille. Après 5 années de prison, elle n'était plus belle. La beauté était partie. Ils lui ont montré une photographie après l'autre. Nous publions tout le temps de ces photographies, vous pouvez les obtenir de chez nous, nous avons les photographies. Puis, ils lui ont montré la photographie d'une autre jeune fille, aussi très gentille cette jeune fille, peut-être aussi 18 ou 20 ans. Ils l'ont tenue en prison 5 ans. Après 5 ans, elle est sortie, elle était chauve, pas un poil sur la tête, pas un cheveu sur la tête. Pardonnez-moi, pas un cheveu sur la tête, elle était sans un dent dans sa bouche. Vous pouvez vous imaginer comment paraît une jeune fille qui n'a pas un seul cheveu et pas un seul dent. Monstrueux, monstrueux. Et le capitaine de police a dit à notre sœur, Galina Vilchinska, il a dit à notre sœur, je dois vous dire que vous êtes très très belle. On peut aisément tomber amoureux de vous. Et vous avez toutes les possibilités dans la vie. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera, vous vous marierez, vous aurez des enfants, vous aurez une maison, tout ça. Pourquoi avez-vous besoin de toutes ces questions, christianisme, religion? Vous n'avez pas besoin de ça. Dites-nous les secrets de votre travail et vous serez libre ce soir même. Si vous voulez rester chrétienne, ça aussi nous sommes d'accord, vous pouvez rester chrétienne, vous pouvez même rester membre de l'église souterraine et prier tant que vous voulez, seulement une fois ou deux fois par mois. Vous devez vous rencontrer avec un officier de notre et nous dire ce qui se passe dans l'église clandestine. Ça veut dire qu'elle doit être un Judas et trahir le secret. Si vous acceptez ça, vous êtes libre et vous êtes belle. La vie vous attend, la vie vous sourit, vous aurez une très belle vie. Si vous refusez, je vous promets, vous serez mis dans les mêmes conditions dans lesquelles cette fille a été tenue. Après 5 ans, vous n'aurez plus cette beauté. Je vous promets que vous sortirez chauve et sans un dent. Choisissez. Maintenant, c'est très difficile pour un homme de se transposer dans la situation, dans l'état d'âme d'une jeune fille mise devant une telle tentation. Mais il y a ici des jeunes filles, et je m'imagine que la tentation était terrible, terrible. Toute ta beauté disparaît. C'est une grande tentation. C'est plus facile de montrer sa poitrine et dire, fusillez-moi, tuez-moi, je ne m'en fais pas. Je vais au ciel. Ça, c'est facile, parce que ça se passe dans une minute. Mais être pendant des années dans une cellule souterraine, moi, j'ai été dans une cellule souterraine dans laquelle nous n'avons jamais vu le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les fleurs, et tout ça. J'avais oublié qu'ils existent. Moi, pendant 14 ans, je n'ai jamais vu une couleur. Je voyais seulement le gris des murs de la cellule et notre uniforme gris. Avec le temps, j'avais oublié que bleu et vert et violet existent. Notre monde était gris. Je ne vous dirai pas qu'est-ce que nous avons mangé parce que vous perdrez l'appétit pour quelques mois si vous saviez qu'est-ce que nous avons mangé. Nous n'avions jamais une Bible ni un autre livre. Je n'ai jamais vu un enfant 14 ans. Je n'ai jamais vu une jeune fille ou une dame 14 ans. Notre vie était très terne et je ne vous expliquerai pas les tortures. C'était très, très mal. Et maintenant, tu es une jeune fille, la vie vraiment te sourit, et tu as à choisir. Chère, chère sœur, qu'est-ce que tu aurais choisi? Est-ce que tu aurais choisi, eh bien, je resterai chauve et sans un dent, monstrueusement laide, mais je resterai fidèle à Jésus. Cette jeune fille a eu l'esprit vrai. Elle a répondu, Monsieur le capitaine, je vous remercie beaucoup pour le compliment que vous m'avez fait, que je suis belle. Je dois réciproquer ce compliment et vous dire que vous êtes un homme très, très beau. Mais je veux ajouter quelque chose. Moi, je n'étais pas toujours belle. D'abord, j'étais un fœtus dans le bon, comment est-ce qu'on dit, dans le sein de ma mère, j'étais un fœtus. Peut-être vous avez vu dans les journaux, dans des livres, des photographies des fœtus, maintenant il existe. Un fœtus n'est pas beau. Moi, j'étais un fœtus laid. Puis, j'étais un bébé nouveau-né, toujours très beau aux yeux de sa mère, et spécialement aux yeux de sa grand-mère. Tous les autres savent qu'un petit bébé nouveau-né n'est pas beau. Mais enfin, j'étais un bébé, je suis devenu un enfant, tout le monde disait que je suis un bel enfant, maintenant on dit que je suis une belle jeune fille, peut-être que je serai une belle femme, mais avec le temps je vieillirai. Votre grand-mère n'est pas si belle comme elle a été à l'âge de 18 ans. Je vieillirai. Et après ça, une fois, je serai un cadavre. Et vous aussi, un homme tellement beau, vous aussi, vous serez un cadavre. Est-ce que vous avez jamais vu un cadavre duquel on tomberait amoureux? Après un temps très court, le cadavre n'existera plus. Il y aura un squelette. Est-ce que vous avez jamais vu un squelette beau? Vous serez un squelette, moi aussi je serai un squelette. Et à présent, même le squelette ne restera pas, il n'y aura que de la poussière. Et pour cette beauté temporaire, transitoire du corps, moi je ne vendrai pas la beauté de ce qui reste. Rien dans ce monde ne restera. Dieu dit, le ciel et la terre passeront. Mais ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont été lavés par lui, qui ont été sanctifiés par lui, ils brilleraient comme le soleil dans son empire. Je refuse votre offre. J'ai vu la photographie d'elle quand elle est sortie de prison. Elle n'avait plus la beauté extérieure, mais il y avait quelque chose de tellement majestueux qu'on ne peut pas décrire. Seulement, c'était l'attraction du ciel. C'était superbe comme le ciel dans sa face. La face d'une jeune fille qui a accepté de porter la croix du Christ, que lui s'était sacrifié pour elle, elle aussi s'est sacrifiée pour le Christ. Ce que je veux vous dire au sujet du verset avec lequel nous avons commencé, il y a toujours un encore plus. J'étais ce matin, aujourd'hui à midi, on m'a invité à un restaurant. On reçoit à manger, et on peut prendre encore plus. J'avais tant de bonté, on pouvait en avoir encore plus. Et chacun de nous voudrait avoir encore plus de l'argent, ou des plaisirs, ou de culture, ou de tant de choses. On n'est jamais satisfait, on veut avoir quelque chose de plus. C'est grande chose d'être un petit frère ou une petite sœur de Jésus, et de l'aimer comme un petit frère ou une petite sœur. Mais ce n'est pas le stage le plus haut de l'amour. L'amour le plus profond, l'amour le plus céleste, ici parmi les hommes, c'est l'amour d'une mère envers l'enfant. La mère peut se sacrifier pour son enfant comme les enfants ne se sacrifient pas pour leur mère. C'est l'amour le plus haut. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont fait nos mères pleurer, lui ont fait des jours amers, lui ont brisé le cœur. Beaucoup font ceci, et la mère a continué d'aimer et de pardonner et d'être bonne. On peut être mieux qu'un petit frère ou une petite sœur de Jésus. Lui-même a dit, vous pouvez être avec un tel cœur, un cœur de mère, être cette personne qui manque dans la généalogie de Jésus. Il y a eu tant des ancêtres qui ont fait à la fin se naître Jésus sur la terre. Toi aussi tu peux faire qu'un Jésus naisse dans le cœur d'un homme. Il pourra dire, comme nous tous nous disons, Jésus vit en moi. Mais il y a eu un qui m'a dit du Christ, qui m'a amené au Christ, qui a joué le rôle de mère et a fait Jésus se naître dans mon cœur. C'est ça. Ce que je veux vous dire, l'Église, dans les pays communistes, elle a été férocement torturée. Il y a maintenant dans les pays communistes des dizaines de milliers de chrétiens en prison. Je ne sais pas si vous en êtes informés. En Éthiopie seulement, un pays communiste, en Afrique du Nord, on compte entre 7 et 8 000 de prisonniers. Moi-même, j'y étais pour des missionnaires. Une jeune fille éthiopienne m'a raconté, avec un sourire sur ses lèvres, comment on l'avait pendue tête en bas et on l'a frappée de cette façon. 7 à 8 000, ils reçoivent à manger 3 fois par semaine une assiette de manger, mais ne vous imaginez pas quelque chose d'américain, quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils reçoivent ici, 3 fois par semaine une assiette à manger. En Mozambique communiste, il y a, on croit, entre 10 000 et 12 000 chrétiens en prison. Et quoique c'est tard, je ne veux pas vous tenir longuement, je dois vous dire quelque chose de vrai, seulement beau, il vaut pour vous d'aller vous coucher un quart d'heure plus tard, seulement pour écouter ça. C'est une des choses les plus belles que je connais. Au Mozambique communiste, c'est dans le sud de l'Afrique, les communistes sont allés de village en village. Ils ont découvert qui sont les chrétiens actifs. Ils ont brûlé leur maison. Ils n'ont pas des maisons comme chez nous, des huttes, enfin, mais c'est ça leur maison. Ils ont brûlé leur maison. Ils ont confisqué leur bétail, leurs brebis, leurs poules, tout ce qu'ils avaient. Ils ont assemblé les chrétiens dans la place du village, dans le marché du village. Les ont déshabillés à nu et sont partis. Nous avons aujourd'hui des centaines et des milliers de frères et de sœurs qui sont nus. L'Église ne peut pas se rassembler parce que le pasteur n'a pas de pantalon et la sœur n'a pas de jupe ou de blouse. Et ceux-ci, nos frères, mangent des fourmis et de l'herbe. Combien de fourmis faut-il avoir pour un souper? Ils mangent des fourmis. Nous avons des frères qui mangent des fourmis et de l'air. Et maintenant, à présent, pour la première fois, un missionnaire est arrivé là-bas. Il a vu ces choses, il a pris des photographies. Et naïf comme il était, il demanda le pasteur d'un village, « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Il voit l'homme qui est nu, il est entouré des hommes nus. Il voit qu'ils n'ont pas quoi manger et il leur demande, « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Et à cette question naïve, le pasteur a donné une réponse plus que naïve. Il a dit, si vraiment vous voulez nous aider, donnez-nous des petites barques. Mais pourquoi des barques? Il a dit, parce que plus haut, dans cette rivière, il y a des villages païens où on ne connaît pas encore la joie du Christ et nous voudrions y aller dire la joie du Christ. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous... Être nu! Se nourrir des fourmis! On ne meurt pas de faim tout de suite. Ça dure jusqu'à ce qu'on meurt de faim. Et je dis, tant que je ne suis pas mort de faim, je veux aller dans un autre village pour dire là-bas de la joie du Christ, de la joie du Christ. Je dois vous dire que vos frères et vos sœurs dans les prisons communistes, j'ai vu tant de joie dans cette assemblée. Eux aussi, ils ont la joie. Nous aussi, en prison, nous chantions. Nous chantions chaque jour. Pas seulement le dimanche, comme il se passe avec des chrétiens quelquefois ici en Amérique, ils chantent une fois par semaine. Nous chantions chaque jour, et nous chantions accompagnés des instruments musicaux. Les communistes ont été très gentils envers nous. Ils savent que les chrétiens aiment à glorifier Dieu, et quand un chrétien entre en prison, on lui donne un instrument musical. Mieux qu'au Canada, ici, les prisonniers ne reçoivent pas des instruments musicaux. Nous avons reçu, pas des violons, pas des accordions, pas de mandoline, mais des chaînes aux mains et aux pieds. Et nous avons découvert que les chaînes sont des instruments musicaux splendides. Je regrette que je ne connaisse pas les chansons en français par cœur, mais en anglais, je pourrais vous chanter ce que nous avons chanté par là. The day, clink, clang, clink, clang. The day, clink, clang, clink, clang. With the Lord is made, clink, clang, clink, clang. With the Lord is made, clink, clang, clink, clang. Let us sing and rejoice from all our heart. Nous pouvions le faire parce que le Christ était dans le cœur. Il y avait la foi, il y avait l'espérance, il y avait l'assurance. On a un Dieu qui t'aime. Et toutes les souffrances de la prison communiste sont passagères. Et chers enfants, je sais que vous avez des souffrances ici aussi. Il y a tant de souffrances aussi en Amérique. Vos souffrances sont aussi passagères. et la joie du Seigneur est éternelle. Et ne renonçons pas à la joie éternelle en comptant les souffrances que nous avons ici. C'est ça ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je travaille dans une mission qui se nomme Jésus au monde communiste. Je vous avais dit déjà ce que nous faisons. Nous introduisons clandestinement des Bibles et d'autres littératures. Quelquefois, on me demande, mais comment est-ce que vous introduisez clandestinement? Bien, un contrebandiste qui dit comment il fait la contrebande n'est pas un bon contrebandiste. Ceux qui font la contrebande de la drogue, ils ne disent pas comment ils le font. Ils le font. Je peux dire peut-être, introduisons clandestinement, pour vous décrire un épisode, on peut en parler parce que c'est découvert déjà. La Russie et les pays communistes de l'Est, de l'Europe, ont eu l'année dernière 7 millions de touristes. Quand on a 7 millions de touristes, comment est-ce qu'on peut rechercher ce que fait chaque touriste? Il y a une grande queue d'auto à la frontière, et ici vient un grand mobile home. Vous savez que c'est très grand auto des touristes. Et quand l'officier de la douane ouvre la porte près du chauffeur et le demande, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Il voit trois Bibles sur le siège de chauffeur. Quoi? Vous introduisez des Bibles? Vous ne savez pas que c'est interdit? Vous êtes un contrebandiste? Il commande à ses aides, défaites cet auto et contrôlez-le millimètre par millimètre, mais un si grand auto, ça prend des heures pour contrôler quelque chose comme ça, et tous les autres autos en queue doivent attendre. Et derrière ce grand auto, il y a un autre mobile home, un autre grand auto, et le chauffeur de Zgo saute de sa place et vient au premier chauffeur et crie à lui, « Pourquoi est-ce que vous introduisez clandestinement de la Bible à cause de vous? Nous tous, nous avons à souffrir. Nous tous devons attendre par là. » Et l'officier de la douane dit, « Vous avez raison, ce n'est pas notre faute, c'est la faute des gens comme ça, mais vous pouvez passer. Et le deuxième auto est passé, vous savez où était la Bible, les Bibles. C'était dans le deuxième auto, il n'était pas dans le premier. S'il y a 7 millions de touristes, entre elles, il y a beaucoup de femmes enceintes aussi. Des femmes enceintes. Quelquefois, on a un futur bébé. Mais quelquefois, il y a aussi des jumeaux. Il y a même des triplettes et des quintuplettes. Quelquefois, c'est un... Et nous avons imprimé des Nouveaux Testaments sur du papier très mince et avec une écriture très petite. 200 Nouveaux Testaments font une femme être enceinte au 9e mois. Et les docteurs et les sœurs de charité américaines simplement ne disent pas la vérité qu'une femme peut être enceinte au 9e mois seulement une fois par année. Dans notre mission, elles sont enceintes au 9e mois 3-4 fois par année. Et ils naissent sans aucune douleur, sans aucune souffrance. La parole de Dieu entre dans les pays communistes en grande quantité. Et le résultat est que l'Église en Chine soviétique, en Russie soviétique, en Roumanie, croit, comme les champignons, ainsi ils croient. Pour vous dire seulement de la Chine rouge, la Chine avant l'avènement du communisme il y a 40 années, avait d'après la statistique 3 millions et demi de chrétiens, ceci c'était des catholiques, des protestants, tout ce que vous voulez, dans la statistique, c'était 3 millions et demi. Maintenant, les évangéliques seuls sont 50 millions, après 40 années de grande persécution. Les catholiques aussi ont cru, je ne sais pas combien. Mais l'Église croit dans ces pays. Nous parlons par la radio à ces peuples et communiquons l'Évangile et nous faisons encore une chose. Et avec ça, je finis. Combien de fois avez-vous mangé aujourd'hui? Comptez aussi les snacks, ce que vous avez mangé entre les repas. Combien de fois croyez-vous que les enfants des prisonniers chrétiens ont mangé ce soir? Combien de fois ont les enfants des martyrs ont mangé ce soir? Moi, je dois vous dire qu'il y a des milliers qui n'ont pas mangé. Quand moi, j'étais en prison, mes enfants n'ont pas mangé. J'ai un fils qui ne peut manger même pas aujourd'hui. Il a perdu l'habitude de manger. Le manger, ça n'existe pas pour nous. Il y a la faim, il y a le besoin. Vous pouvez aider. Votre pasteur m'a dit qu'il a l'intention de prendre une offrande pour notre mission. Vous pouvez aider. Vous pouvez aider avec des coins, vous pouvez aider avec des dollars, avec des chèques de centaines ou des milliers de dollars. C'est un sacrifice de donner de leur argent. Mais eux, ils donnent leur liberté. Ils donnent leur jeune vie. Ils donnent leur beauté. Ils donnent leurs cheveux. Ils donnent leurs dents. Ils donnent leur corps être brisé et leur sang être versé. Ils donnent encore une chose. Ils donnent l'exemple d'une église triomphante qui n'est pas contente d'être des disciples de Jésus, mais des hommes qui font des autres de disciples, qui apportent des disciples. Ils ne sont pas contents d'être seulement des frères et des sœurs de Jésus. Ils veulent maturer, être vraiment au pinacle de la foi, comme une mère à Jésus, l'amour le plus supérieur. Pensez à cette église, priez pour elle. Mes chers, chers enfants, Vassili Chipilov est en prison depuis 49 ans. Combien d'entre vous avez-vous prié pour lui? Et si je ne prie pas pour quelqu'un qui est depuis un demi-siècle en prison et qui peut-être est tombé sous le poids de la croix déjà, il a besoin de ma prière. Si je ne prie pas pour lui, pour qui dans le monde est-ce que je prie? J'ai une excuse, je n'ai pas su de Vassili Chipilov, mais vous pouvez savoir. Nous publions chaque mois un bulletin que chacun de vous, si vous le laissez sur la table de livre qui est là-bas, où le pasteur vous dira sur des enveloppes votre nom et votre adresse, vous recevez gratuitement un bulletin avec les photographies de ceux qui sont en prison, leur adresse, leur histoire. Vous pourriez partager avec eux en prière. Priez pour ses frères et pour ses sœurs. Je dois vous dire que nous, quand nous étions en prison, en chaîne et battus et affamés, chaque soir, nous nous agenouillons et nous prions pour chaque prière. Moi-même, j'ai prié et les autres, aussi pour les États-Unis, aussi pour le Canada et pour la France. Nous avons prié pour chaque pays que nous connaissions de la géographie. Et vous aussi, vous priez pour eux et donnez-leur votre amour et tâchez de croire dans l'amour, de devenir des mères qui font Jésus naître de nouveau dans le cœur de quelqu'un autour de vous.